Ce que je voulais parler aujourd'hui, est-ce qu'on voit? C'est les grands effets de nos petits murmures. Des fois, on murmure, et puis ça a été une réflexion que j'ai faite pour moi, fait que je ne vise pas personne. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe, s'il te plaît, aux prochaines... Quand je vais faire ça, t'avances. OK? C'est dans Philippiens 2, versets 12 à 18. J'aimerais ça qu'on puisse le lire, et puis on va le commenter, tranquillement, pas vite. J'ai mis le texte ici parce que c'est bien que vous lisiez dans vos bibles, mais on n'a pas tous la même version. Comme ça, on va tous parler le même langage. C'est-tu correct? Merci Fabien, Ghislain, tous ceux qui s'occupent de la technique, les musiciens aussi. C'était bon. On lit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent, car Dieu, qui produit en vous le vouloir, car c'est Dieu, excusez, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Prochaine. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, c'est autour de ce verset-là que est centré le message. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Prochaine. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Et vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prochaine. Donc, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur ce verset-là. Et ce passage-là, dans le fond, il y a quatre points que j'aimerais couvrir. Mais avant, on va prier. Seigneur, tu sais comme on a des besoins, comme on est faible et fragile. Mais on veut te demander que par ton Saint-Esprit, tu nous parles, tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous enseignes, que tu nous fasses du bien ce matin, puis que tu nous équipes pour notre vie, d'avoir une vie victorieuse qui t'honore à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, le premier point, prochaine, c'est « Faites toutes choses sans murmure ». Prochaine. Donc, les murmures. Prochaine. J'aimerais ça avoir une manette, mais elle ne marche pas. On va regarder au niveau de la définition. Prochaine. C'est un mot qu'en grec, je regarde pour ça habituellement le mot grec, c'est « gogousmos », je ne connais pas le grec. Mais apparemment, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que c'est un onomatopée. Un onomatopée, c'est un mot qui veut dire ce que ça sonne, comme le mot en français « claque ». Une claque, ça fait le même son, « claque », quand on la donne. Fait qu'on a donné le mot, le nom « claque ». Et puis, « gongousmos », c'est comme quelqu'un qui grogne. Gna, 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 gna. Tu sais, je sais pas si ça vient de dire. Mais tu sais, c'est en arrière-attendant ça vaguement. Voyons, il parle-tu de moi, là? J'entends grommeler en arrière. Puis c'est la même chose en français. Murmure, murmure, tu sais, t'entends. Ça murmure un peu, là. T'entends quelque chose en arrière, mais t'es pas sûr de ce que c'est. Fait que ce mot-là, ça veut dire un murmure, marmonner, un débat secret, un déplaisir secret non avoué ouvertement. Fait que c'est ça dont on parle. Ensuite, il y a une distinction entre murmurer et se plaindre. Murmurer, on pourrait dire, c'est dire tout bas ce qu'on pense tout haut. On le pense, c'est clair, hein? Mais on dit tout bas, on ne veut pas que les autres l'entendent. Le dire en cachette ou dans le dos, il y a une notion d'hypocrisie là-dedans, d'une attitude négative et critique. Comme exemple, on a les Juifs qui murmuraient à son sujet de Jésus, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il n'osait pas aller le voir. Puis il dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » Il dit « Hey, il a dit ça, ça n'a pas d'allure. » 1 Pierre 4, 9 dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Ah, ils vont-tu s'en aller, eux autres? Non, mais j'ai hâte qu'ils partent. OK? On ne le dit pas en pleine face, ce qu'on pense tout haut. Les plaintes, maintenant. Ça peut signifier un murmure aussi. Mais ça peut aussi vouloir signifier tout haut à Dieu ce qu'on pense tout haut. Puis là, on vient devant Dieu, puis on veut faire une plainte constructive ou simplement exprimer notre souffrance. On a un exemple dans le psaume 102, la prière d'un malheureux lorsqu'il était battu et qu'il répand sa plainte devant Dieu, pas dans son dos. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Donc, c'est une plainte, mais ce n'est pas des murmures. Donc, il y a quelques principes dans la Bible. Oh, tabarouette! La gâchette est facile si je fais ça. OK. Fais bien ça, Ghislain. Quelques principes bibliques. On a dans 1 Corinthiens, Paul, il nous dit aux Corinthiens, il dit, ne murmurez pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Faites bien attention, faites pas ça. Et puis, on va aller voir des enfants d'Israël dans le désert, qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau du murmure. Ça, c'est parmi les premiers murmures qu'ils faisaient quand il n'y avait pas d'eau. Il avait soif, puis il n'y avait pas de bouffe autant qu'il voulait, puis il n'était pas content. C'est dur dans le désert. Il fait chaud, tu n'es pas chez vous, tu es tout le temps en train de déménager, tu es vraiment irrité. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël dirent, ils étaient déprimés un peu, là. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande que nous mangions, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ça continue en disant, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures. Et là, c'est une première leçon. Il entend les murmures qui sont dans le secret. C'est évident, je sais. Mais on a comme cette... Tu sais, je peux murmurer contre mon boss. Des fois, ça arrive. Tu murmures contre quelqu'un, puis là, tu t'aperçois qu'il était là. Mais il est toujours là. Il entend toujours. Il connaît les pensées de mon cœur. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Notre leçon, c'est que l'Éternel se sent visé même si les critiques ne sont pas adressées directement à lui. Et on voit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire, si je vais murmurer contre le méchant, l'Éternel qui l'a fait. Il se sent visé, même si je ne murmure pas directement contre Dieu. Fait que mon attitude dans mon cœur, là, c'est comme, ça va profond. Là. Il lit nos pensées et il me demande des comptes sur mon attitude dans mon cœur. Il dit aussi, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, moi j'organise toute chose, ne murmure pas contre aucune chose, c'est moi qui les organise. Un autre exemple, c'est dans Deutéronome, Moïse, c'est la deuxième loi, que ça veut dire Deutéronome, mais il répète un peu des incidents qui sont survenus avant, et à ce moment-là, ça concerne des incidents quand ils voulaient explorer la terre promise, donc ils étaient rendus sur le bord, là. La limite, le Jourdain était là, ils allaient rentrer dans la terre de Canaan, des belles promesses s'en venaient, et là, il est arrivé des incidents. Le peuple avait un petit peu des craintes, il avait envoyé des espions, et là, dans cet incident-là, ils se sont mis à murmurer. Deutéronome 1, verset 20. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. On est arrivés, that's it. Vois, l'Éternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois sans crainte et sans effroi. Tout va bien. Le moment tant attendu est arrivé. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, que dit Moïse, et je pris 12 hommes parmi vous, c'était un prince de chaque tribu, un chef, et ils s'avancèrent, montèrent vers la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils inspectèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Qu'est-ce qu'il y avait de là, ces fruits-là? Super gros. C'était deux hommes avec une perche pour porter quoi? Une grappe de raisin. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Les 12 espions étaient unanimes sur ça. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais, vous n'avez pas voulu y monter et vous avez été rebelle à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes. Chut! Ouais, ça n'a pas d'allure. Pas pour aller là, nous autres. Hey! Vous avez dit, c'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. M'arrive cette épreuve-là. Pour moi, le Seigneur ne m'aime pas. On se dit ça dans notre cœur des fois, devant un bon problème. Il nous en arrive des bons problèmes à tout le monde. Qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Fait que même quand il est caché dans nos tentes, le murmure exprime une rébellion. On banalise facilement ce danger subtil. Parce que on a l'instinctivement, on pense qu'il ne nous entend pas, mais il nous entend. Il disait, « Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des fils d'Anak. » Les fils d'Anak, ça avait 9 pieds, apparemment. C'était imposant, c'était effrayant. On avait l'air à leurs yeux comme des sauterelles. Et on voit ici, l'incrédulité alimente la rébellion et le murmure. Le psaume 106, ça donne un commentaire sur ces incidents-là qui sont survenus avec Moïse. On lit, « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. » C'était prouvé. Il dit, « Je sais qu'il y a des gros problèmes là-bas. Mais écoute, est-ce que je ne t'ai pas déjà démontré? Pense à la mer qui s'est ouverte, pense à l'armée de Pharaon que j'ai exterminée, pense à la manne, pense à toutes ces affaires-là, le rocher que j'ai fendu, l'eau a coulé. » Des miracles dans le pays de Cham, c'est en Égypte, des prodiges sur la mer Rouge. Verset 24, ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Fait que quand je murmure, c'est que je ne crois pas Dieu. C'est de l'incrédulité. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Et ça nous donne des informations un petit peu que dans le murmure, j'ai une rébellion. J'ai de l'incrédulité. C'est un gros problème. Reviens avant un petit peu. C'est concernant ici. Nos frères nous ont fait perdre courage. Ça nous donne une autre information sur le murmure. Les hommes, on lit en nombre, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée. Moi, je peux faire murmurer d'autres personnes. Ça me dit que le mécontentement exprimé par les murmures, c'est contagieux. Je peux contaminer. Si je me mets à murmurer, moi, je peux contaminer d'autres. Par exemple, je peux contaminer, infecter la foi de mes enfants par mes murmures toxiques. Souvent, ça se vit dans notre tente, dans notre maison. Là, on revient, l'église. Oh, lui encore. C'était au but qu'il prêchait le matin. Puis, mais les enfants, ils écoutent ça, puis papa qui le dit, là, non, c'est maman, tu sais, qui parlait de l'autre, de l'école du dimanche, mettons. Ah, oh, c'est vrai, il n'est pas bon, lui, pas, non, c'est pas correct, cette église-là, hein. Mais là, sans savoir, je suis en train de contaminer sa foi. Non, de dire, hey, c'est grave pour moi, c'est grave devant Dieu, c'est grave pour mes petits, mes enfants qui m'écoutent. Je me suis laissé aller comme ça, tu sais, je ventilais, écoute, tu sais, puis je parlais avec ma femme, puis on jasait de tout ça, puis tu sais, je pense que je ventilais, puis que je m'exprimais un petit peu, je me défoulais, ben. Mais dans le fond, c'était un murmure, c'était une rébellion contre Dieu, puis j'ai contaminé par mes murmures toxiques la petite foi fragile et faible et naissante de mes enfants. Puis j'ai vu ça des fois, des commentaires, tu sais, désobligeants envers des hommes de Dieu, des responsables, nos pasteurs, puis que ça brise quelque chose dans le cœur des autres, ça contamine. Ça dit ici, et qui, à leur retour, avait fait murmurer contre lui. C'est-tu coupé? Hein? C'est juste. Avait fait murmurer contre lui. Je peux faire murmurer, je peux contaminer. On va avancer. Donc ici, nos frères nous ont fait perdre courage. Fait que je peux jouer aussi ce rôle-là, puis c'est dans le murmure. On continue. On continue dans le texte de Deutéronome, ça dit, et c'est la solution ici, pour lutter contre ce murmure-là. Moïse leur avait dit, ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Fais-toi-en pas là, par incrédulité. Avance par la foi, il va combattre pour toi. Murmure pas comme ça. Combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Verset 32, dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel votre Dieu, quand ils ont murmuré, qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin. Vous deviez marcher le jour dans une nuée. Il continue. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Dans son indignation, il fit serment en ces termes. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai fait serment de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphouné. Il le verra, lui, et je lui donnerai à lui et à ses fils le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Une autre leçon, c'est que la rébellion du murmure nous disqualifie pour la victoire. On ne sera pas capable. Ils ont parlé contre. C'est pour nous faire mourir. Puis là, ils ont chiolé. Et ils se sont disqualifiés pour la victoire. Dans son indignation, il fit un serment en ces termes, aucun des hommes de cette génération, disqualifié pour la victoire, pour le service de rentrer dans la terre promise, les privilèges de la terre promise, un pays de lait et de miel, et la récompense d'avoir leur lot, leur héritage dans la terre promise. Les murmures les ont disqualifiés pour ça. Donc, on voit en gros quelques principes bibliques concernant les murmures, et puis le prochain, c'était « ne murmurez pas, ne pas murmurer et sans hésitation ». Continue. Hésitation, c'est intéressant, c'est un mot « dialogismos ». On a en français « dialoguer ». Parce que là, on veut négocier. Et puis, regardez à la fin ici, 2B, « discussion, argumentation ». Et là, on a un petit peu l'esprit, là. Tu sais, continue. Ça, c'est une version paraphrasée, parole vivante, pour avoir l'idée générale du texte. C'est « faites tout sans murmure ni plainte ». C'est le verset. Ensuite, il reprend, il dit « ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants ». Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute, ou de vouloir argumenter. Et c'est sérieux. Et c'est subtil. Et charnellement, ma chair veut le faire tout le temps. Le vieux Jocelyn, il veut le faire tout le temps. Argumenter, chialer, puis il voit tout le temps les bibittes. Fais-les pas. C'est grave pour les autres, c'est grave pour Dieu, puis c'est grave pour toi. Ça va te disqualifier. Ce n'est pas par la foi que tu t'exprimes quand tu fais ça. Donc, on revient à notre passage où est-ce qu'il y avait 4 points à aller chercher. Et là, ça va aller un peu plus vite. Afin que vous soyez irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et puis, l'image que j'avais trouvée, tu sais, de notre génération, on sait qu'elle est perverse et corrompue, mais sur ce sujet-là de chialer, puis de porter plainte, je trouvais qu'il y avait comme un symptôme qui apparaissait le plus, c'était de traîner en cours des gens. Puis quand on va aux États-Unis, on avait été en Floride une fois, là, et puis, sur le chemin, c'était impressionnant de voir toutes les annonces qu'il y avait des avocats. Apparemment, de tous les diplômes universitaires, je ne sais pas, j'entends ça, là, de tous les diplômes universitaires, c'est celui d'avocat qui en a le plus de gradués aux États-Unis. Même plus que toutes les autres ensemble. Bon, mettons qu'il y en a plus. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça porter plainte. Ils aiment ça chialer, puis aller devant. Puis j'ai mis ici quelques petites photos, tu peux avancer. On voyait des annonces comme ça. Si tu te fais personal injury lawyers, là, si tu fais un accident, hey, porte plainte, puis là, on va t'aider puis pour chialer, OK? Puis la prochaine, ça, c'était comme des annonces là, qu'on voyait. Là. Si tu t'es fait mal, écoute, on le fait gratos pour toi, puis si ça marche pas, on paye le bill. Puis si ça marche, c'est sûr qu'on va se faire payer beaucoup. La prochaine, c'était, hey, chiale contre ton mari, c'est correct. Pour 300$, on va le divorcer. Pour aussi peu que 300$, divorce him. Hey! Tu sais, ça l'encourage justement de chialer le murmure. Puis l'autre que je trouvais le plus comique, c'était pour les écoles. Puis, tu sais, je travaille dans une école, puis je vois ça de plus en plus. Les enfants rois sont devenus des parents. Puis là, ils rentrent dans l'école, puis là, ils veulent chialer. C'est quoi cette affaire-là, une suspension pour mon enfant? Puis là, ils ont leurs avocats. Si ton enfant fait face à une expulsion de l'école, viens nous voir, on va t'aider. Puis ça arrive des fois, tu sais, j'avais été à une réunion à la commission scolaire, puis la maman était venue avec son avocat. Puis ça devient compliqué, là, tu sais, ils se mettent à chialer pour tout. Mais on vit dans une génération comme ça, continue, et on doit briller dans cette génération-là. On doit être différent. Faites toutes choses sans murmure, toutes choses, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. L'autre partie, c'était parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. On voit qu'il y a briller d'une part. Ah non. Briller d'un côté, et puis porter la parole de vie. Il m'écoute, c'est bon. Porter la parole de vie. Briller, c'est comme ce que t'es. Ça paraît. Les gens te regardent. Tu n'as rien dit encore. Tu brilles. Tu parles plus par les choses que tu dis pas. Comment ça se fait qu'il se plaint pas, lui? Comment ça se fait qu'il bitch pas, lui? Ou elle? Tu brilles comme un flambeau parce que tu dis pas. Parce que t'es joyeux. Tu rends grâce. T'apprécies. Tu brilles. Portant la parole de vie, là, c'est parce que tu dis, t'apportes la parole de vie, tu parles, tu témoignes. Le Seigneur est bon pour moi. Moi, je ne méritais pas ça, le Seigneur me l'a donné. Je rends grâce pour la nourriture. Merci, Seigneur. Je rends grâce pour ma santé. Tu sais, je ne pourrais pas être en santé. Je peux travailler. Merci, Seigneur, j'ai une job. C'est peut-être pas celle que j'aurais voulu, puis tu penses dans ton cœur, mais merci, Seigneur, j'ai une job. Alors, tu portes la parole de vie. L'autre point, « Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Et Paul, il a tout organisé son texte. Puis il dit, « C'est important pour moi. » Prochain, il y a trois buts là-dedans. Prochain, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. » Deuxième but, c'est au milieu d'une génération perverse, c'est notre témoignage. Puis troisième but, afin que je puisse me glorifier, puis de donc réjouir nos conducteurs spirituels. Qui voient, ça va bien. Tabarnouche, les gens font des progrès. C'est beau de voir ça. Ils portent des fruits. C'est le Seigneur dans leur vie. C'est pas eux autres. Eux autres, naturels, on bougonnerait. Mais le Seigneur dans nos vies, il rend grâce. Continue. Donc, on a couvert les quatre points là-dedans. On va aller à la suite du texte. Prochain. Et là, il continue, il dit, et même, c'est Paul qui parle, et même si je sers de libation pour le service, pour le sacrifice, excusez, et pour le service de votre foi, c'est quoi une libation? Ouais, c'est ça. C'est ça, on faisait un sacrifice, c'était apporter un agneau, mettons, il était tué, il était tout là, la viande était placée. Puis là, tu mettais un petit, la cerise sur le sundae, mettons. Puis tu rajoutais comme du vin, mettons. Et puis là, c'était comme agréable, c'était des sacrifices. Du vin, c'était important pour toi, mais tu le donnais, tu l'offrais. Bon, les païens faisaient ça, les juifs faisaient ça aussi. Et Paul, il disait, si moi je répands mon sang, si je meurs pour ça, si je donne ma vie, et puis pour le sacrifice et pour le service de votre foi, vous autres, c'est le gros morceau. Moi, je suis un petit, j'ajoute un peu à quelque chose, mais il dit, moi, je vais être bien content si je fais ça. Beaucoup de souffrance qu'il y avait, Paul. Est-ce qu'il murmurait? Non. Il y avait des plaintes, des fois, pour les églises. Il y avait un cœur pour les églises. Il y avait une belle attitude. Puis il était content. Écoute, si le Seigneur veut que je sois répandu sur votre sacrifice, que vous faites, que je vous demande de faire à vous aussi, je vais être bien content. Je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Et réjouissez-vous avec moi. Moi, je me réjouis. Toi aussi, réjouis-toi. Ah, tu te dis, wow, ça, c'est une autre attitude, puis c'est dur. Je suis pas sûr là, d'avoir ça, cette attitude-là. Il nous dit, faites toutes choses sans murmure. Soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, parmi laquelle vous brillez. Puis là, il faut porter la parole de vie aussi. Puis là, servir de libation, puis s'en réjouir, puis vous aussi réjouissez-vous. Aïe, aïe. Sentez-vous un petit peu... que ça fait... c'est dur, c'est difficile? Un couple? Ouais? OK. Comment lutter contre ce sentiment de mécontentement qui nous amène si facilement à murmurer? Comment se réjouir? Hein, des fois, Dieu il nous regarde et il nous voit comme ça. C'est l'image du ciel quand il nous voit. Alors, je veux pas ridiculiser, tu sais, puis je sais, quand ça va mal pour moi, là, j'ai de l'air de ça, puis riez pas de moi quand j'ai de l'air de ça, tu sais, ça va mal. Même si c'est des petits bobos, c'est important pour moi. Mais comment se réjouir comme Paul devant les contrariétés de la vie? Quand nous sommes vraiment sous pression, ça peut être financièrement, tu sais, t'as peur de perdre ta job, la maladie chez toi, c'est vraiment sous pression, ça va pas bien, des chicanes. Là, c'est assez, là. Tu sais, t'as le goût de parler de même, puis ça va, tu vas sauter une coche. Puis là, t'es vraiment plus capable. J'avais un petit texte ici que j'aimerais lire, c'est d'une madame qui avait écrit ça en 93. C'était bien fait, c'était beau, et c'était édifiant, je trouvais. Ça s'appelle « Pourquoi mon fardeau est-il si lourd? » On peut passer à la suivante. Je vais vous le lire. Ça va peut-être prendre quelques minutes. Mais juste, vous êtes en vacances, là, essayez d'apprécier. OK? On l'écoute. Pourquoi mon fardeau est-il si lourd? J'ai refermé la porte de ma chambre avec force, en appuyant mon dos contre elle. Puis je me suis dit, n'y a-t-il pas de repos et de tranquillité ici-bas? J'en ai assez. Je me suis laissé tomber sur mon lit. J'ai enfoui ma tête sous un oreiller en la pressant sur mes oreilles pour ne plus entendre de bruit, surtout le bruit de ma misérable existence. Ô Seigneur, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir pour toujours et que je ne me réveille plus jamais. En sanglotant, j'ai alors sombré dans un profond sommeil au cours duquel je fis le rêve que voici. Une éclatante lumière m'environnait. Alors que j'en cherchais la source, mes yeux s'arrêtèrent sur une figure d'homme qui se tenait à mes côtés près d'une croix. « Mon enfant, me demanda-t-il, pourquoi veux-tu venir à moi maintenant avant que je ne t'aie appelé? Seigneur, je ne peux plus continuer. Ne vois-tu pas comment ma vie est pénible? Regarde mon fardeau, Seigneur, il est trop lourd pour moi. Je ne peux simplement plus le supporter. Mais je ne t'ai pas dit... Ne t'ai-je pas dit de te décharger de tous tes fardeaux sur moi? Parce que je t'aime, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je savais que tu me dirais ça, Seigneur, mais pourquoi le mien est-il si lourd à porter? Mon enfant, chacun a un fardeau à porter. Peut-être aimerais-tu changer ton fardeau pour celui d'un autre? Je peux faire ça si tu veux. Il me montra du doigt plusieurs fardeaux déposés à ses pieds. « Choisis celui que tu veux, » me dit-il. Tous les fardeaux semblaient d'une grosseur égale et chacun portait le nom d'une personne. En voyant celui de Joanne, ça n'a pas rapport, là, c'est une Joanne, hein? C'est l'histoire. Okay? En voyant celui de Joanne, je me suis dit, « Joanne est bien mariée avec un homme d'affaires prospère. Elle vit dans une belle maison et ses trois filles sont habillées à la dernière mode. » Parfois, elle m'a conduite à la réunion avec sa belle voiture lorsque la mienne était en panne. Je vais essayer le sien. Il n'est certainement pas plus pesant que le mien. Le Seigneur m'enleva mon fardeau et plaça celui de Joanne sur mes épaules. Mes genoux ployèrent sous le poids de son fardeau. Enlève-le, Seigneur! Qu'est-ce qui le rend si lourd? Regarde à l'intérieur, me dit-il. J'ouvris le sac. Sur le dessus, il y avait le visage de sa belle-mère. Je le sortis du sac. Et aussitôt, elle se mit à parler. « Joanne, tu ne seras jamais une bonne épouse pour mon fils. Je savais bien, il n'aurait jamais dû te marier. Tu ne seras jamais capable d'élever mes petits-enfants comme ils devraient l'être. » Je remis cette mégère au fond du sac, avec empressement, et sortis une autre figure du sac. C'était Diane, la plus jeune fille de Joanne. À la suite d'une opération non réussie pour guérir son épilepsie, sa petite tête était entourée d'un bandeau. Je sortis une troisième figure du sac, le frère de Joanne, aux prises avec de graves problèmes de drogue. Il était maintenant accusé du meurtre d'un policier. Je vois maintenant pourquoi son fardeau était si lourd sur mes épaules. Seigneur, j'aurais jamais deviné. Elle est toujours souriante, prête à aider les autres. Comment fait-elle? Voudrais-tu en essayer un autre? Me demanda-t-il doucement. J'ai alors pesé quelques-uns. Celui de Julie me sembla très lourd. Elle élevait seule 4 enfants. Marie aussi était seule pour élever ses enfants. Après avoir été abusée dans son enfance, elle avait épousé un homme qui s'était révélé être un mari violent. Non, je ne veux pas de cela non plus. Lorsque je vis celui de Rachel, je n'en voulais pas également, car je savais ce qu'il y avait dedans, de l'arthrite. Un travail à temps plein, malgré son âge avancé. Et un conjoint invalide. Non, non, pas celui-là, Seigneur. Franchement, ils sont tous trop lourds. Je vais reprendre le mien. En levant mon fardeau pour le remettre sur mes épaules, il me sembla beaucoup plus léger que les autres. Regardons à l'intérieur, me dit-il. Je me suis retourné en tenant mon fardeau serré contre moi. Ce n'est pas la peine, Seigneur. Pourquoi? Il y a que des petites choses insignifiantes, Seigneur. Ça ne vaut pas la peine. Laisse-moi voir quand même. Comme je ne pouvais résister à la douceur de sa voix, j'obéis et j'ouvris mon sac. Il en sortit une brique. Gros problème. Parle-moi de celle-ci. Oh, Seigneur, tu sais, c'est l'argent. Je sais qu'on ne souffre pas comme ces malheureux que l'on voit chaque jour à la télévision, mais Seigneur, il nous manque tellement de choses. Et les enfants d'aujourd'hui sont si exigeants. N'est-ce pas normal, Seigneur, qu'ils réclament les mêmes choses que leurs camarades plus fortunés? Mon enfant? Je vais continuer à subvenir à tes besoins et à ceux de tes enfants. Je leur ai donné la santé et je vais leur enseigner que l'argent ne rend pas une personne plus précieuse à mes yeux. C'est alors qu'il sortit du sac la figure d'un petit garçon. Et celui-ci, demanda-t-il, André, dis-je honteuse de devoir appeler mon fils un fardeau. « Mais Seigneur, il est hyperactif. Il n'est pas comme mes deux autres enfants. Il m'épuise. Il passe son temps à se blesser. Et même, il y a des gens qui pensent que je l'abuse physiquement de lui. Je tape dessus. Je passe mon temps à crier après lui. J'ai peur qu'un jour, je finisse par lui faire du mal. Mon enfant, si tu mets ta confiance en moi, je vais renouveler tes forces. Si tu me laisses faire, je vais te remplir de mon Esprit Saint, et je vais te donner la patience. Il tira de mon sac quelques petits cailloux, petits problèmes. Oui, Seigneur, je sais, dis-je en secouant ma tête, ils sont petits, mais pour moi, ils sont importants. Je déteste mes cheveux. Ils sont clairs, ils sont fins, je ne peux pas les peigner comme je voudrais. Je n'ai même pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Seigneur, j'ai aussi pris du poids. Il m'est financièrement impossible de suivre un régime afin de perdre ces quelques kilos en trop. Enfin, Seigneur, je déteste mes vêtements. J'ai l'air d'une vraie folle passée de mode. Mon enfant, le monde regarde à l'apparence. Mais moi, je regarde à l'intérieur, dans ton cœur. Avec mon esprit, tu peux apprendre à contrôler ton poids. Mais la vraie beauté ne doit pas venir de l'extérieur, mais du dedans. C'est cette beauté-là qui a de l'importance à mes yeux. Ah, mon fardeau me semble moins lourd maintenant, Seigneur. Je pense pouvoir le supporter. Il me dit, donne-moi cette autre brique dans ton sac. Oh non, Seigneur. Je peux m'en occuper de celle-là. Laisse-la-moi, Seigneur. Mon enfant, donne-la-moi. Donne-moi ce problème aussi. Il me tendit sa main pour la prendre. C'est alors que pour la première fois, j'ai vu ces horribles cicatrices. Seigneur, tes mains. Oubliant mon problème, j'ai levé les yeux et j'ai vu sur son front beaucoup de petites cicatrices causées par une couronne d'épines. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mon enfant, tu le sais bien. Donne-moi ce problème qu'il te reste. Il est à moi. Je l'ai acquis avec mon sang. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que j'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Donne-moi cette brique. C'est ainsi que j'ai placé cette brique dans sa main, sur la plaie laissée par le clou sur la croix, il y a 2000 ans. Cette brique-là contenait tout ce qui était de mauvais dans ma vie, mon orgueil, mon égoïsme, des choses qu'on n'arrive pas à lutter, des fois. Cette dépression qui me tourmentait continuellement, la jalousie et l'envie de toujours en avoir plus. Il se tourna vers la croix et jeta ma brique au pied de la croix, dans une mare de sang, le sien. Maintenant, mon enfant, tu dois retourner vers tes obligations. Je serai toujours avec toi. Quand tu auras besoin de moi, appelle-moi. Je t'aiderai et je te montrerai des choses que tu ne peux imaginer aujourd'hui. Oui, Seigneur, je ferai appel à toi, c'est promis. Comme je me penchais pour reprendre mon fardeau, il me dit, tu peux le laisser ici. Tu vois ces autres fardeaux? Ce sont ceux de personnes comme toi qui les ont déposés à mes pieds. Quand tu laisses ton fardeau à mes pieds, je t'aide à le transporter. Souviens-toi, mon fardeau est doux et léger. Comme il disparaissait, je l'entendis murmurer, « Je ne te laisserai jamais seul. » C'est à ce moment que je me suis réveillé. Une douce paix avait envahi mon cœur. Ce que je trouvais beau là-dedans, c'était cette notion-là, laisse-moi ton fardeau. Puis la résistance des fois qu'on a, on veut garder le contrôle. On va passer au prochain. Si on pense, le peuple juif, lui aussi, avait des grosses pressions. L'armée égyptienne qui les avait poursuivis. L'eau amère à Mara, des déplacements fréquents dans une chaleur insupportable. Inquiétude face à la nourriture. Il y avait eu soif au rocher d'Horeb. Puis bien d'autres fois aussi, des ennemis géants. Des vrais géants, à Canaan. Des villes fortifiées avec des hautes murailles, hautes comme le ciel. Des vrais gros problèmes. Et puis, Moïse leur avait donné une solution. Comment devaient-ils, eux autres, avoir la victoire et que leurs enfants si fragiles pour lesquels ils avaient peur ont obtenu la victoire? Moïse leur a donné la réponse. Je l'ai lu tout à l'heure. Je vous ai dit à ce moment-là, « Ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. » Et c'est ça qui est arrivé. Tout comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, et ainsi de suite. Prochaine. Et là, si on regarde dans l'ensemble, si je résume, regardez à gauche, on a vu ne pas murmurer, afin qu'il y avait trois buts, d'être pur, de briller, puis de réjouir nos conducteurs. Il a dit aussi, réjouissons-nous dans le sacrifice et le service de notre foi. Au lieu de se réjouir, de murmurer, réjouis-toi. Et là, la question, c'est comment? Et là, c'est sur ça vraiment le nœud du message. Comment avoir une vie victorieuse? Comment ne pas perdre notre récompense, nos privilèges, la terre promise chrétienne, d'une vie chrétienne victorieuse, parce qu'on le voit le Seigneur agir au cœur de nos problèmes. Et là, c'était de voir, ça nous ramène au dessus, là. Encore? C'est dit, par la foi en Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et ça colle au texte. Moïse avait dit, c'est lui qui combattra pour vous. Et Paul dit ici, c'est lui qui va produire le vouloir et le faire. Prochaine. On va relire le verset. Excusez. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Puis souvent, on est comme un peu mélangé. Écoute, c'est-tu moi qui travaille à mon propre salut ou c'est Dieu qui travaille à mon propre salut? C'est sûr que tous les versets nous disent que c'est on est sauvé par grâce, c'est un cadeau. Je dois travailler. C'est quoi l'affaire? Là? C'est un cadeau ou c'est pas un cadeau? Non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui va combattre pour nous, selon son bon plaisir. Prochaine. Oui, on a un travail dans notre salut. Mon travail, c'est de faire confiance. Puis si on prend comme exemple ceux qui ont bénéficié des promesses, des privilèges, de la terre promise, eux autres, ils s'en sont emparés comme de Jéricho. Oui, c'était un travail. Il fallait que tu ailles marcher alentour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, puis le 7e jour, combien de fois? 7 fois. C'était un travail. Il fallait que tu sonnes la trompette. Il fallait que tu te taises. Les gens sur la muraille vérifiaient. C'est pas un mot. Tu suis l'arche. Tu suis le Seigneur, les prêtres. C'est pas un mot. Obéis. Tais-toi. Murmure pas. Avance. Ça, c'est notre travail. Fais-moi confiance. Ça, c'est mon travail. Alors, et puis, ça s'est tout écroulé. T'avances, puis tu gagnes, t'as la victoire. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'on a à faire. Fais-moi confiance. Je me souviens, quand, avant de me marier, j'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, j'ai eu une petite entreprise avec mon frère. Mon frère était en électronique, puis moi, j'avais étudié en administration. Puis j'avais mis tout mon argent. Moi, j'ai resté chez mes parents jusqu'à temps que je me suis marié. Et même mes parents ont déménagé, puis je suis resté là. J'ai collé à la maison. Mais j'économisais tous mes petits sous. Puis j'avais pas d'auto. J'étais un vieux garçon, tu sais. J'économisais, là, puis j'avais tout pris mon argent, puis j'avais laissé ma job payante, puis tout ça. Puis je travaillais pour Kraft, analyste financier. Puis j'ai été avec mon frère. Et puis j'ai mis de l'argent, j'ai mis... En tout, là, avec les emprunts puis tout ça, dans le temps, ça fait longtemps, ça fait 25 ans, 90 000 piastres. Et puis, on a eu des belles subventions, un quart de million, on a eu de l'argent, puis on a planté. Hein? Une longue histoire courte, là, j'ai tout perdu. Puis, j'avais beaucoup d'anxiété, tu sais, à ce moment-là, je me souviens, on avait passé des jours, comme 50 heures debout, on travaillait, on devait aller voir la banque, puis c'était moi qui s'occupais des finances, tout ça, puis j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de... Puis là, je voulais que ça marche, cette compagnie-là, il y avait des choses prometteuses qui s'en venaient, puis tout ça, beaucoup d'anxiété. Et puis je me souviens, j'avais été dans une réunion de prière, j'avais broyé comme un bébé, tu sais, j'étais vraiment à ses nerfs. Et puis il a dû se passer quelque chose, tu sais, ton travail, c'est de faire confiance, c'est j'ai lâché prise. Il dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Puis là, il y a une paix. Puis je pense que le Seigneur voulait m'enseigner ça. Quelques jours après, là, on a eu un appel de la Défense nationale, une commande qui s'en venait, 500 à 600 000 piastres. Ça nous aurait vraiment propulsé vers le succès. On a tout perdu. Mais le Seigneur a voulu que je le sache. J'aurais pu. Ça aurait pu arriver quelques jours avant. Mais moi, je voulais que tu passes par là. Je voulais te bénir comme ça, que tu apprennes à me faire confiance. Puis quand j'ai fait confiance, là, c'est comme si mon fardeau était plus sur mes épaules. Il a tombé. J'ai déposé. Seigneur, là, ma vie t'appartient. C'est tes problèmes. Je n'avais plus de problèmes. C'est pas que je voulais être irresponsable face à mes obligations. J'ai repayé mes dettes, j'ai travaillé par après. On n'a pas fait de faillite, on a simplement fermé. Continue. Un verset que j'aime, qui illustre cette notion-là, puis je trouve que c'est... J'apprends ces choses-là. Puis dans le fond, si le message je l'ai fait, c'est pour moi, pour apprendre comment avoir la victoire dans des choses aussi personnelles que notre attitude intérieure que le Seigneur voit à l'œil nu. Quand je murmure, le mécontentement. Plutôt que d'avoir la louange, la victoire de la louange. Ce verset-là, tu sais, j'ai été crucifié avec Christ. C'est comme mon fardeau, ma vie. Le vieux Jocelyn, il l'a crucifié, lui, à la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est ça qui est libérateur. C'est Christ qui vit dans moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et là, c'est là de voir, lui, sa vie peut me permettre d'avoir la victoire. Une fois que j'abandonne comme ça, pense au prochain. Donc, le travail spirituel, travailler avec propre salut, il y a un contrôle à céder. Lâche. Tu sais, puis ça, on a nommé, à pointe, ça abrique, puis on veut pas. Lâche. Des fois, c'est des bonnes circonstances pour apprendre à céder le contrôle. Il faut que quelque chose casse en nous autres. C'est comme un brisement. Puis là, tu plies. Tu dis, oui, Seigneur, là, c'est plus moi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, qu'on lit dans Colossiens. Vous êtes morts. Oui, je l'accepte, Seigneur. Amen. Et ma vie, c'est le Seigneur qui vit en moi. C'est cette vie-là que je veux. Lâchez prise. Souvent, on entend ça, hein? Lâchez prise. C'est let go and let God. Mais c'est pas d'être irresponsable. C'est pas juste ça, là. Moi, on fout, là, tu sais. Puis, il arrivera, il arrivera, tu sais. Puis, non. Là, c'est de faire confiance aussi. Les deux. Lâchez prise et faire confiance. Et là, Seigneur, il va arriver des affaires. Tu sais, j'ai tout perdu, oui, puis je vais aller repayer mes dettes. Puis je vais faire confiance, puis on avance. Puis je te louerai dans toutes ces choses-là. C'est beau le chant, hein? Il donne et il reprend. Il donne et il reprend. Béni soit ton nom. Malgré tout, je dirai, béni soit le nom. Puis Job avait dit ça, c'est Job qui l'a composé. Tu sais, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est comme la mort pour mes projets sur moi, parce que c'est les siens que je veux voir se réaliser. Donc, le travail spirituel, c'est de se fortifier dans la foi. Moi, je ne l'ai pas, je vais douter, je vais murmurer, puis tout ça. Non, Seigneur, là, t'as une minute. Et puis Moïse, c'est ça qu'il essaie d'écouter. Ne murmurez pas, faites confiance, ne craignez pas. Écoute, la promesse est là. On va rentrer, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Fais-y confiance, avance. Puis là, ils ont choqué. Ils ont murmuré. Et moi, j'ai souvent choqué, murmuré. C'est correct, mais là, aujourd'hui, je vais lui faire confiance plus. Puis là, par la prière, Seigneur, puis là, ça, c'est comme quand j'ai cassé à l'intérieur, je dis, mais là, prends-les, Seigneur, tu sais, puis fais-en ce que tu voudras, puis moi, c'est correct, je vais t'aimer avec ce que tu décides. En regardant aux promesses, il me l'a promis, il va s'occuper de moi, je ne te délaisserai pas, je ne te laisserai jamais seul. Et les promesses, on les a dans l'abîme. En regardant aux promesses plus qu'aux problèmes, en cherchant un soutien chez nos frères et sœurs, tu sais, dans le groupe vie, tu sais, j'ai vraiment un fardeau, je suis plus capable. Comme moi, quand j'avais été, je pense que ce qui m'a aidé à débloquer, c'est quand j'étais là dans cette réunion de prière-là, j'ai parti à broyer, puis là, j'étais plus contrôlable, je sanglotais comme un bébé. J'aime pas ça. Mais, tu sais, c'était trop. Mes frères et mes sœurs, ils ont prié pour moi. Ça m'a relevé, ça m'a aidé. Et par la louange, tu sais, il m'arrive des bobos, des problèmes. Mais Seigneur, je sais que Satan, il voudrait que je murmure. Je vais te louer pour ça. Béni soit ton nom. Prochaine. On va voir une illustration pratique, parce qu'on a des petits amis avec nous, hein, qui aiment ça, des bandes dessinées. Les grands n'aiment pas ça, mais c'est juste les petits qui aiment ça. Et puis, je trouvais que c'était une belle illustration. Tu sais, Nathanaël nous parlait d'évangélisation. On a des responsabilités de briller et de porter la parole de vie. Et c'est une histoire vraie. En 1989, au moment de Noël, c'est un chrétien qui est en Chine, régime communiste, pas de BIM, persécuté, c'est contre la loi. Il fait de l'évangélisation. Une histoire vraie. Et édifiante. Comme Paul, tu sais, réjouissez-vous, mais on peut apprendre. Il y en a encore dans qui le Seigneur vit et qui porte des fruits. Depuis des semaines, je parcours la province inhospitalière du Gansu. Et on voit là la neige, les montagnes. Il n'y a pas d'autoroute, pas de garage, de McDo, d'arrestop. C'est ma première mission d'évangélisation. Hein? C'est un jeune, mais qui est son... Et moi, je vais y aller parler du Seigneur. Tu sais, j'ai prié, envoie des ouvriers dans ta moisson. Le Seigneur lui avait mis à cœur, il s'en va parler de son Sauveur. La première fois, il ne sait pas trop comment, mais... Déjà, dans les villages précédents, j'ai déjà amené quelques personnes à Jésus. J'ai parlé, puis le Seigneur a béni. Il a touché leur cœur, puis il y en a quelques-uns qui sont venus au Seigneur. C'est mon sixième village. Puis il continue. L'histoire, c'est ça, se déroule dans la période de Noël en 1989. Là, on le voit qu'il arrive au village. Il est en haut ici, là. Et puis là, il voit, il y a du monde attroupé. Bonjour! Je vous apporte une bonne nouvelle qui... Écoutez, nous n'avons que de mauvaises nouvelles ici aujourd'hui. Un couple s'est fait voler son bébé. C'est dit dans la note en bas, l'enlèvement d'enfants n'est pas rare en Chine où les couples n'ont le droit d'avoir qu'un enfant. Les autres, leur enfant s'était fait enlever dans le village. C'était pas une belle journée pour arriver. Pourrais-je voir ce couple? Puis, tu sais, le jeune, il avait juste la foi. Je vais pour le Seigneur. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver, mais le Seigneur le sait, puis lui est plus grand que moi. Je peux-tu le voir? Allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous ici. Fichez-nous la paix et partez. Je n'ai jamais été reçu ainsi. Dois-je reprendre ma route? Non, ça ne va pas bien. Conduisez-moi vers chez ce couple, je vous en prie. Je pourrais peut-être l'aider. Puis, tu sais, c'est le Seigneur, c'est sûr qu'il peut l'aider. Quelqu'un veut-il? Hey! Ah, OK, suis-moi. Mais nous n'aimons pas les curieux. J'espère que tu partiras vite après. Là, il l'amène voir le couple. Puis il a sa Bible, il a sorti sa Bible. Il va voir le couple. Prochaine. Je comprends votre terrible chagrin qui commence à dire, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, c'est Dieu. J'aimerais le prier pour vous. Tu sais, il n'y avait pas grand formule. Là. Puis il y a ça comme ça sortait. J'aimerais prier pour vous. Lui, il savait dans son cœur, il dit, non, c'est pas, ça a l'air impossible, mais par la foi, mon Dieu est grand, puis je vais le prier, puis il va écouter ma prière. Moi, je le suis. Et là, il commence à prier, puis on voit là, le papa là, qui checkait, là, cher Père Céleste, il y a bien longtemps, à ce moment de l'année, tu as envoyé un enfant dans le monde, et tu nous as sauvés. Aujourd'hui, nous te demandons de nous ramener l'enfant disparu et de délivrer ce village de la tristesse qui l'étreint. Amen. Ah, taisez-vous et partez. Nous avons déjà prié nos dieux. Il ne s'est rien passé. Pourquoi le vote ferait-il mieux? Puis là, ils disent, nous n'avons que faire de ton Dieu. Dehors l'étranger. Puis là, il en mange toute une. Puis imagine en Chine, là, où est-ce qu'il y a du karaté, du kung-fu, puis pac-pac. Regardez lui ici, là, tu sais, il a l'air d'un petit maître, là, en jaune, là. Ouh! Là, il se retrouve, les yeux pochés, la Bible dans la neige. Il me semble que ça va pas comme j'aurais voulu. Puis là, on le voit, hein, le village est au loin ici, puis il s'en va. Puis c'est quand, là, tu es tout seul, après une épreuve, là, tu marches... Puis le temps passe. Là, tu commences, hein, tu penses à ton affaire. Puis là, c'est là que les murmures peuvent sortir. Il me semble, tu sais, tabarnouche, mes vacances de Noël que je passe ici, puis faire recevoir de même, tu sais, je viens en ton nom, Seigneur, puis je pense que je ne méritais pas celle-là. Là. Puis là, tu sais, Seigneur, ai-je prié en vain? Tu sais, moi, j'ai fait confiance, j'ai mis ma foi en toi, j'ai l'air d'un cave. Là, tu es tout seul, tu as le temps de marcher, puis tu auras la tentation de murmurer. Puis il fait entendre sa plainte. Puis là, il tombe à genoux. Puis c'est ça qui est beau. Tu sais, c'est quand tu es dépassé, il se place devant le Seigneur, il ne murmure pas, il se présente devant lui. Seigneur, là, je ne comprends plus. Je ne suis plus capable. C'est pas correct. Sente, tu sais, ton nom, tu sais, moi, je joue pour évangéliser. Puis si tu ne m'accompagnes pas, si ce n'est pas ta puissance, à quoi ça, c'est quoi ça rime, toute cette affaire-là? Tu sais, je fais tout ça juste par moi. Puis là, il répand son cœur. Puis il est là, à genoux dans la neige, ça ne dérange plus. Puis là, il se tourne devant Dieu. Il ne murmure pas, mais il présente sa plainte. Là, je vois la neige sur ses épaules qui commence à s'accumuler. Il est là, puis il attend. Puis là, le Seigneur lui parle. Puis là, ça commence à réfléchir. Toi, le Fils de Dieu, t'es venu dans le monde en sachant que tu serais méprisé, battu, chassé, incompris, finalement crucifié. C'est sûr, moi, ça va pas bien, je suis pas content, mais toi, t'as passé par là. C'était bien pire. Puis là, le Seigneur lui parle, puis console son cœur, le relève, le fortifie par la prière, pour avoir la victoire. Malgré cela, t'es venu. Puis là, il y avait comme un courage. T'es venu pour nous autres. Ça t'a pas dérangé de te faire brasser. T'es venu pareil. Puis là, le Seigneur, c'est comme il le relevait. Il le fortifiait malgré ses épreuves. Moi, je suis venu dans ce village espérant être reçu en héros, du moins être une attraction pour ces gens. Au lieu de ça, j'ai été traité un peu comme tu l'as été. T'es encore à genoux. Le Seigneur, il parle, il est en train de guérir son cœur, de le fortifier, d'y parler. Oui, je sais que tu passes par là, je sais que tu aurais le goût de murmurer, mais tu te présentes devant moi, c'est bien. Par la foi, tu te présentes devant moi, mais moi, je vais te relever. Continue. Puis là, il réfléchit, il dit, c'est beau. Correct, je sais ce que j'ai à faire. Je dois suivre ton exemple. Je dois avoir le même courage que toi. Je dois retourner au village, tout en sachant que j'y serai méprisé. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui va arriver. Toi, tu le sais. C'est ton problème, pas mon problème. Moi, je suis mort. C'est toi qui vis en moi. J'ai été crucifié. Mais vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais je tremble de peur. C'est ça, le travail à votre propre salut. Travailler. Je tremble de peur. Mais il va pareil. C'est dangereux. Les karatékids sont là. J'ai encore les bras et les épaules meurtries. Tu sais, la chair, elle n'aime pas ça, obéir. Et il réfléchissait à ça. Mais il luttait contre ça. Seigneur, aide-moi. Non, tu es venu. Par la foi. Tu es venu. Tu l'as fait. Moi aussi, c'est ça que tu m'appelles. Que vais-je leur dire? Je ne sais pas comment, par où commencer. Puis là, il entend. Un bébé? Mais où est-il?
Oui!
Ah! Seigneur, loué sois-tu! Puis là, il entendait, il a vu le bébé. C'est sûrement le bébé volé ce matin. N'aie pas peur, je vais te réchauffer.
Oui!
Voilà l'explication. Là, il avait le drap a tombé, puis il a vu. Les ravisseurs se sont aperçus trop tard que tu étais une fille. Et ça dit en bas, les couples qui financent ce trafic ne veulent que des petits gars. Ils t'ont abandonné là. Fait qu'il l'a bien emballé, puis il est retourné au village. Qu'a-t-il donc dans les bras? Le bébé! C'est le bébé, il est vivant. Il dit rien. Dans tout le texte, il dit rien. Il laisse le bébé parler, il laisse le Seigneur. Il combattra pour vous. Il amène le bébé. Pas un mot. Qu'est-ce que je vais leur dire? Rien. Amène le bébé. Avance. L'aide, remets aux parents. Mon bébé, mon beau bébé. Puis là, le papa, il dit, venez vous réchauffer. Il n'a rien dit. Puis il dit, raconte-nous, racontez-nous, qui est ce Dieu que vous avez prié? C'est une vraie histoire. Quelle invitation, je suis là, hôte, honoré, face à une trentaine de villageois qui attendent, en retenant leur souffle, d'entendre l'Évangile. L'Éternel combattra pour vous. Puis là, il le raconte. Vous voulez que je parle? Je vais parler. Je n'ai rien à dire. Laissez le bébé parler. Je vais vous raconter. Eh bien, il est venu sur la terre sous la forme d'un petit bébé. Juste à cette époque de l'année, il y a 2000 ans, et cette même nuit, le couple a cru en Jésus. C'est beau, hein? Moi aussi, j'ai appris une grande leçon. Je ne suis passé à portée de la voix du bébé que parce que j'avais déjà repris le chemin du village. S'il avait murmuré puis avait continué, il se serait disqualifié pour la victoire, la récompense, la promesse, les privilèges. Il a obéi, il s'est placé devant Dieu, il n'a pas murmuré. Si je n'avais pas eu le courage d'apporter l'Évangile malgré les risques, je n'aurais pas retrouvé le bébé et ses villageois n'auraient pas entendu parler de Jésus. Comme Jésus, je devais être prêt à payer le prix pour apporter l'Évangile. Peut-être le prix pour nous, c'est moi d'endurer que ma compagnie a fermé, toi d'endurer les difficultés que tu as, la dame, tu sais, endurer les difficultés qu'elle avait, son fardeau, avec joie, avec victoire, c'est ça qu'on veut. Peut-être qu'il n'y aura pas de grands événements comme ça dans ta vie, mais on veut la victoire. On veut ces promesses-là, ce privilège, cette récompense-là de nous présenter devant le Seigneur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je devais être prêt à payer le prix pour apporter l'Évangile, l'humiliation et le mépris des hommes. Histoire vraie tirée avec l'autorisation du journal Porte Ouverte, c'est le ministère Open Doors Ministries, en décembre 90. On va prier. Seigneur, on a tous nos fardeaux. Donne-nous d'être petits à nos yeux, de nous humilier. Seigneur, on vient à toi, on te demande ton secours, ton aide. C'est ça que tu veux pour nous, qu'on vienne à toi, t'apportant nos misères, nos souffrances, nos inquiétudes, ce qui nous tourmente. Et de faire confiance pleinement. Seigneur, fortifie notre foi. Aide-nous à l'assemblée ici, dans cette église. Aide-nous, peu importe d'où on vient, Seigneur. Aide-nous à venir à toi avec nos frères et nos sœurs, de prier pour ces défis que tu as placés devant nous avec des géants d'Anak qui nous terrorisent, des grandes villes fortifiées, des murailles qui s'élèvent jusqu'aux murs, la peur qui nous paralyse. Seigneur, aide-nous ensemble, qu'on puisse s'encourager, prier, et la victoire est possible. On ne veut pas passer à côté, passer 40 ans à tourner en rond dans le désert, perdre notre récompense. On veut la victoire. Enseigne-nous ces vérités-là, de mourir à notre volonté. Tu dis, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça, c'est là que je veux, ma vie cachée avec Christ en Dieu. Seigneur, aide-nous à être victorieux, que les gens d'alentour voient que c'est différent, c'est pas pareil. Manifeste-toi, Seigneur. On n'est pas plus talentueux que ce jeune garçon chinois qui avançait par la foi. C'est ça qu'on veut, Seigneur. Enlève, brise en nous nos résistances. Notre volonté propre, nos efforts charnels. Enlève tout ça, mets-les à la croix, c'est ça que tu dis que tu as fait. Le vieil homme a été crucifié pour que la vie de Jésus brille. C'est ça qu'on te demande, on ne veut pas de compromis sur ça. Glorifie Jésus en nous. Dans son nom précieux qu'on te prie. Amen.